Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Je suis le principal auteur de mes films, bons ou mauvais, affirmait Marcel Carné en fin d'émission. Sans doute en réponse à ceux qui prétendaient qu'il n'avait tourné de bons films qu'avec, et donc grâce à, Jacques Prévert. Et que les autres, ma foi. Drôle de drame, on sait que le film fut un échec commercial lors de sa sortie. On sait moins qu'un distributeur habile l'avait ainsi annoncé dans certaines régions françaises comme le film le plus bête de l'année, assurant ainsi le début de son succès. Jean-Louis Barrault, Jacques Prévert, Alexandre Trenner, Maria Cazares et Arletty, bien sûr, étaient les invités de ce clap sur Marcel Carné, diffusé pour la première fois sur France Culture le 27 avril 1974, afin d'étudier et de raconter ce metteur en scène à l'œil panoramique, à l'œil travelling, à l'œil fouineur, fouisseur, percuteur, à qui rien, mais strictement rien, n'échappait.
Il a toujours l'air d'un sous-neuf. Impeccable. Déjà déplumé, mais impeccable. C'est vraiment le sous-neuf.
J'ai trouvé ça merveilleux d'être metteur en scène du cinéma. Ça, c'est formidable.
Il est nerveux, il prend des colères terribles, mais on sent une telle passion de son métier.
Je crois que ça a été tourné pendant la guerre.
Pendant la guerre, et avec un grand metteur en scène.
Ah oui, d'accord.
Je ne le dissocie pas de Jacques Prévert.
C'est pas pareil. Je ne suis pas regretteur du passé professionnel, mais c'était autre chose. Et c'était très agréable. Alors, même souvent, c'était Marcel qui m'appelait. Vous savez, une drôle de voix, elle est curieuse. Ah, tu m'as vu cet acteur-là, Saturnin Fabre, et Saturnin Fabre, moi, qu'est-ce que je vais en faire de Saturnin Fabre? Je peux pas, faut que tu viennes. Non, je venais plus. Discuter quoi, avec Saturnin Fabre, avec Marcel, et puis ça s'arrangeait.
Il a une sensibilité de faire travailler les acteurs pour, à l'époque, pour préparer un chant, pour composer son tableau de chaque plan.
Bah, si vous me dites ça, je dirais qu'il n'a jamais changé. Il y a la lui-même. Oui, je vous dirais ça. Je vous dirais, si vous me dites ça dans ce sens-là, n'est-ce pas, à ce moment-là, n'est-ce pas, c'était fédère. C'était fédère. Mais il était déjà attentif. Je vous dirais ça parce que si nous en parlons avant, on est foutus.
Ouais, d'accord, mais ça y est, ça tourne.
Ça y est, ça tourne.
Pierre Girard, Richard Rhin, Janine Chollet. Clap sur Marcel Carné.
Ce métier est très cruel parce que chaque fois, on remet sa carrière en cause. Les gens oublient totalement ce que vous avez fait pour ne se souvenir que du dernier film et de l'accueil fait au dernier film. Alors, j'ai fait tout de même, en plus de 30 ans de carrière, j'ai fait quand même relativement peu de films quand j'en ai fait 18. C'est Chazal l'autre jour qui me rappelait le nom, moi je ne savais même pas. Mais ça, je crois que ça a tenu à ce que j'ai toujours été au tout début, que j'ai choisi mes sujets moi-même, à une ou deux exceptions près, demander si je voulais tourner telle ou telle chose. J'ai accepté pour beaucoup de raisons. Enfin, pas seulement pour des raisons matérielles, peut-être pour des raisons matérielles, peut-être parce que le percepteur montait un peu trop son nez, mais parce qu'il arrive un moment où on éprouve un manque, comme il y a le manque dans la drogue, il y a le manque, c'est vrai quand même certaine. Pour ceux qui l'aiment, qui le pratiquent, c'est quand même une forme de drogue. Hein. Et il y a un manque, il y a le besoin de toucher la cible d'une caméra, il y a le besoin de dire moteur, de dire partez, de dire couper, enfin de travailler, quoi, de travailler.
« 1936, Jenny, drôle de drame. » 1938, Quai des Brumes, Hôtel du Nord. 1939, le jour se lève.
Entrez ! La vérité est ici ! Entrez ! Venez la voir ! Et quand vous l'aurez vu ?
1942,
vous en rêverez la nuit.
Les visiteurs du soir.
Simplement vêtue d'elle-même, elle se présente à tous dévoilée.
1943-45, les enfants du paradis. 1946, les portes de la nuit. 1947, la fleur de l'âge. 1949, la Marie du port. 1951, Juliette ou la clé des songes. 53, Thérèse Raquin. 54, l'air de Paris.
Suffit. L'entrée des artistes, je l'ai. Avec moi, ça ne prend pas.
56, le pays d'où je viens. 58, les tricheurs. 1960, terrain vague.
C'est bien ça. Je voudrais le voir, je voudrais lui parler.
1962, du mourant pour les petits oiseaux.
Et pourquoi pas votre nom, là, tout de suite, sur l'affiche.
1965, trois chambres à Manhattan.
Nature morte.
Dites-donc, vous.
Parfaitement, je le dis et même je le prédis. Tu le verras, mon
1974, la merveilleuse visite.
Tu entends Frédéric Lemaître, et que ce nom reste gravé dans ta pauvre et vacillante mémoire. Frédéric Lemaître, souviens-toi. Oh, viens.
Bah écoutez, c'est à la fois très simple et très compliqué. Je ne veux pas dire que dès mon plus jeune âge, j'avais la vocation. Mais enfin, j'étais très, très admiratif de l'art naissant qui était le cinéma. Je voyais autant que faire se peut des films importants qui sortaient. Même tout très, très jeune, j'allais au cinéma très jeune. Il arrivait même de me faufiler par des portes dérobées quand j'avais pas d'argent pour voir les films au Batignolles Cinéma, puisque c'était le quartier où je suis né. Et puis, le hasard a fait que j'étais encore très jeune, j'avais 18 ans. Je me suis trouvé à un dîner assis à côté de Françoise Rosay. Nous avons bavardé, parlé. Naturellement, j'ai parlé cinéma, d'autant plus qu'elle était la femme de Jacques Feder. Alors, je pensais que le cinéma l'intéressait beaucoup. Elle avait déjà joué d'ailleurs. Et tant et si bien qu'à la fin du repas, elle m'a dit « Écoutez, il faut que je parle de vous à Jacques. Il faut absolument que vous le rencontriez. » Feder me fixe rendez-vous, je vais le voir, on parle 20-25 minutes. Il préparait alors un film et il ne me dit rien, je m'en vais, il me raccompagne, me serre la main, il ne me dit rien. Un peu triste, je téléphone à Rosay, je lui dis « Écoutez, Madame Rosay, j'ai vu Monsieur Feder, très très gentil, tout s'est très bien passé. » Et alors me dit-elle bah, « Mais il ne m'a rien dit, enfin je pense que pour son prochain film, c'est cuit. » Elle me dit, et vous êtes resté combien de temps? Moi, je dis, je sais pas, 25 minutes. Comment vous êtes resté 25 minutes? Mais alors, mais oh, mais ne doutez pas, il va faire appel à vous. C'est que vous l'avez intéressé. Sans ça, l'entretien n'aura pas duré 5 minutes. Effectivement, Feder m'a appelé à quelques temps de là, et pour me prendre dans l'équipe des Nouveaux Messieurs, qui était le dernier film muet qu'il a tourné, et en France. Et j'étais assistant opérateur. En réalité, j'étais assistant metteur en scène, mais il n'avait pas le droit de prendre un second assistant, enfin, il ne lui donnait pas la possibilité, et il avait trouvé ce biais pour que je travaille avec lui. J'ai fait trois films avec lui, qui étaient Le Grand Jeu, Pension Mimosa, et surtout La Kermesse Héroïque, où j'étais à la fois assistant, j'avais été assistant, véritable assistant pour les deux autres. Là, j'étais encore assistant, et en plus, j'ai été directeur de production, parce que Feder s'est disputé avec le directeur de production, puis j'ai été nommé à sa place. Puis, alors nous sommes en 1935, et 36 plutôt, et j'ai l'occasion de faire mon premier film, qui était Génie, sur un scénario imposé. C'était un petit synopsis de 10 pages, et le producteur me demande qui je veux pour travailler avec moi. Et je me souviens d'un garçon. Je me souviens plutôt d'un nom, d'un auteur dramatique, à l'époque, un auteur dramatique, qui avait fait une pièce qui s'appelait « La bataille de Fontenoy », où il y avait une phrase merveilleuse, c'était « Soldat de Fontenoy, vous n'êtes pas tombé dans l'oreille d'un sourd », et c'était Jacques Prévert.
Le film...
Jacques Prévert.
A eu, comme on l'appelle dans ce métier, du succès. On s'était bien entendu, Marcel et moi. comme souvent par la suite, pas toujours, mais souvent, hein. Et puis après, on a refait un autre film.
Nous vivions tous...
Jean-Louis Barrault.
En famille collective, si je peux dire, avant la lettre, très gentiment d'ailleurs, très innocemment, avec Prévert, avec le groupe Octobre, rue Jacob, avec le grenier des Grands Augustins, c'était en 35. Marc Allégret m'avait fait du cinéma pour la première fois en juillet 35. Et puis, Carnet a fait son premier film, qui était Jenny. Et puis après Jenny, il y a eu Drôle de drame. Là, ça a été une période extraordinaire, parce que j'ai beaucoup aimé tourner Drôle de drame, et qui, il faut le dire, a été un succès à l'époque. Il a fallu attendre qu'il passe son purgatoire pendant la guerre, il faut bien le dire, et ce n'est qu'après la guerre que Drôle de drame a été compris et a été le triomphe durable qu'il est encore maintenant.
Carnet avait un sens...
Preneur, décorateur.
Très bon, je dis ça pas pour moi, pour choisir ses collaborateurs, les principaux. Et Carnet s'est adressé à Jacques Prévert pour faire son le scénario de Jenny. Et l'avantage de Jacques Prévert, comprenez qu'il écrit un scénario qui a un début, un fin. La plupart des scénarios, on ne change pas une phrase. C'est écrit exactement comme une nouvelle. On peut lire les scénarios de Prévert. Il y a très peu de scénarios qu'on peut lire. Vous pouvez lire et ça vous donne une image complète. Alors Carnet avait toujours, généralement quand on a commencé, il avait toujours un scénario qui était complet. On ne travaillait pas pendant le tournage, on n'ajustait pas, on raccommodait pas. Le scénario était écrit. À un moment donné, qui était très important que les principaux collaborateurs et les principaux acteurs soient choisis. Parce qu'évidemment, il essayait d'adapter son langage aux acteurs ou aux acteurs à son langage. C'est pour ça que jamais Gabin n'a pas eu des textes comme il l'avait chez Prévert, jamais Arlette n'avait pas de texte comme chez Prévert. Parce que c'était fait pour les acteurs. Le travail, c'était une collaboration totale dans le sens qu'il y avait une parfaite entente. C'est comme une horlogerie.
Génie, c'est resté tout de même un public très populaire, vous comprenez. Mais puis, alors, Drôle de drame a suivi qui, lui, était tout à fait à l'opposé, qui était une sorte de burlesque avant la lettre. On n'avait encore jamais fait de film de ce genre-là. Même les Américains qui en avaient fait, certains, n'avaient aucune ouverture en France. Enfin, ne projetaient pour ainsi dire pas ce genre de film. Naturellement, il a été très peu compris, très mal accueilli. Et il a fallu que la femme de Jean Gabin voie le film pour qu'elle en parle à Jean Gabin qui tournait en Amérique, lequel Jean Gabin m'a rencontré il y a quelques temps de là. Je lui ai fait lire Quai des Brumes. Il m'a dit qu'il voulait faire un film avec moi. Je lui ai fait lire Quai des Brumes, qui lui a plu beaucoup. Puis voilà comment on a fait Quai des Brumes. Enfin, l'histoire de Quai des Brumes aussi sera tellement très longue parce qu'on l'a fait d'abord, on l'a préparé pour la Oufa allemande qui tournait des films français. Puis le scénario a été refusé par les services de propagande. Puis il a été repris ici. Enfin, ça a été très, très compliqué. Mais enfin, on est venu à bout du film. Et puis alors, j'étais encore, malgré tout, presque débutant. Enfin, j'avais fait un film qui avait bien marché, mais qui n'avait pas une personnalité extraordinaire. Puis l'autre, qui avait sûrement beaucoup plus de personnalité, Drôle de drame, avait été un échec à l'époque redoutable.
C'est invraisemblable comme ce film a été attaqué.
C'était un petit peu passé au-dessus de la tête des gens. Il y avait une espèce d'humour surréaliste qu'on a accusé momentanément d'être britannique, mais qui n'était pas du tout britannique.
Je ne sais pas ce qu'ils avaient contre ce film. Le public aussi, d'ailleurs.
C'est un humour surréaliste qu'on a reconnu depuis et auquel on s'est habitué.
Il y a juste un type qui a eu une bonne idée. Parce que c'était... Ça se passe au, c'est au Colisée, et là, les gens protestaient, et puis ça ne marchait pas du tout. Puis c'est en province, dans je ne sais où, il y a eu un type qui a eu l'idée de le présenter, le film le plus bête de l'année. Eh bien, c'est merveilleux, tout le monde venait. Ils étaient rassurés, c'était idiot, ils riaient beaucoup.
« Allez, installe-toi. Ici, on est tranquille, c'est chez moi.
Salut, fils de soir.
Salut, petit Louis. Casse-pâte pour deux et casse-croûte de soignée, hein, j'ai un invité.
Et quelque chose pour l'oiseau ?
Naturellement. Oh.
C'est du jonc ou c'est de l'osier ?
Faites dire ça.
J'adore Paris, je ne vis qu'à Paris, je ne vis bien qu'à Paris.
Pierre Brasseur.
J'adore surtout les troquets, les bistrots de Paris. Tout le long du boulevard du crime, ce sont des amis. Je joue beaucoup, je joue au dé. Il m'arrive même de sortir du théâtre maquillé. Il y a un petit troquet en bas du théâtre, il m'arrive de descendre et de jouer là, ma paye. Et un jour, pour me faire remarquer, je me suis fait payer en pièces de 10 sous, de façon à avoir mon cachet dans un sac sur le dos, pour épater mes admirateurs qui m'attendaient à la sortie.
Entrez, mesdames et messieurs, entrez. 1 franc aux avant-scènes si vous êtes fortuné, et 4 sous au paradis si vous êtes pauvre ou momentanément gêné. Entrez, entrez, et venez voir les dangers de la forêt vierge, où le crime et la vertu, drôle de pantomime féerique, exotique et pyrotechnique. Entrez ! Et vous verrez une fillette de 15 ans, poursuivie par un lion de l'Atlas, un incendie de forêt, un enlèvement en ballon. Et vous me verrez moi-même, le seul, unique, l'incomparable Anselme de Bureau, Anselme de Bureau, qui a joué la pantomime dans le harem du Grand Turc en sa propre présence, et devant ses 4 hommes turqueresses. Mais celui que vous ne verrez pas à l'intérieur, rassurez-vous, c'est celui-là. Parce que celui-là ne sait rien faire. C'est un attardé. Un rêve tout beau. Même quand il est assis. Un invraisemblable niais. Un lamentable ahuri. Un incompréhensible bon à rien. Et celui-là, hélas, c'est mon fils.
Ça fait la 5e fois que je le vois et je dois dire que c'est un film fabuleux. Et qu'on devrait ressortir plus souvent des vieux succès comme ça et des anciens succès. Parce que c'est du très bon cinéma et qu'on devrait prendre exemple sur ces films-là, je crois. J'ai vu notamment les Visiteurs du soir aussi de Carnet, qui était aussi un chef-d'œuvre dans cette lignée. Et je crois que c'est vraiment du cinéma moderne qui ne vieillit pas, en plus.
Dans les Enfants du Paradis, on a tourné d'une façon magnifique, quoi, et ça a duré plus d'un an.
Ce climat, on ne peut pas le retrouver.
Arletty.
C'est unique, ça. Notez bien les visiteurs aussi. Les visiteurs aussi. Un climat aussi comme ça, oui, bien sûr. C'est unique, ça.
Les Enfants du Paradis, c'est un peu aventureux. Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des choses s'achetaient au marché noir à cette époque. Même pour les grandes sociétés, pour trouver des clous, du bois, etc. C'était, si on attendait l'acheminement normal qui passait par des bureaux et par des offices, on n'aura jamais fait le film. Non, le film est... Et comme c'était en période d'inflation, en réalité, les Enfants du Paradis étaient commandés par des Italiens, étaient commandés par Scalera. C'était la société Scalera qui, avec Paul V, commençait le film, était associé. Et pendant le tournage, l'Italie a fini sa petite guerre, comme il s'est rendu. Quand les Italiens sont partis à travers la frontière, la seule chose qu'ils ont oublié, c'est le négatif. C'est comme ça que le film pouvait terminer, parce que le négatif était intact. Et à ce moment, avec la maison Pathé, mis longtemps pour retrouver des gens, pour faire les tractations avec l'Italie. Et pour remonter l'affaire et pour terminer l'affaire.
Au moment du débarquement à Nice, à Cannes, enfin en Italie, tout ça, nous sommes remontés à Paris, tous, voilà. Il n'y a pas eu d'avatar, rien. Alors c'était drôle parce qu'un film de Carnet, et ne disons pas en pleine occupation, d'avoir fait un film pareil, les difficultés qu'ils avaient à réaliser ça. Il faut penser aussi aux producteurs pour lever. Quel courage d'avoir fait, entrepris ça, c'est merveilleux, ça c'est sensationnel. Non, il y avait des choses drôles comme... Chacun avait son petit problème derrière la tête. Il faut presque une guerre pour un film comme ça, vous comprenez ? Parce que c'est un ensemble de tout. Ça, c'est un cas unique. On peut refaire Les Enfants du Paradis. Bien sûr, on peut les faire, mais il n'y aura pas derrière, sur chacun, une histoire. Vous voyez ? C'est un cas, Les Enfants du Paradis.
Mais nous ne sommes pas ici pour étaler nos malheurs en public. Le spectacle va commencer, et ce spectacle est unique. Pour ceux toutefois qui sont près de leur sou, pour les peintres, les ladres, les regardants, la direction, ne reculant devant aucun sacrifice, la direction leur laisse Baptiste gratuitement. Oh.
Eh ben, si tu fais des petits mêmes à un côté, ce qu'il peut avoir l'air idiot, vous ne trouvez pas?
Moi, je trouve surtout qu'il a de beaux yeux.
Beaux yeux? Ça lui fait une belle jambe.
Il est certain que si je dirige Gabin, je ne le dirige pas de la même manière que si je dirige un inconnu. Et j'ai dirigé à la fois des inconnus et Gabin, Simon...
La façon dont Carnet travaillait était une façon assez nerveuse et qui forçait l'admiration.
Carnet, d'abord, écoutez, Carnet, il faut bien reconnaître qu'il prend des affiches. Monsieur Brasseur connaissait son métier. Monsieur Jules Berry connaissait son métier dans Les Visiteurs. Alors évidemment, il a sa grande technique, mais c'est bien mieux. Imaginez qu'un metteur en scène qui dirige tous les acteurs, c'est affreux. C'est impossible, ça, à mon avis, c'est impossible. Ou alors des gens qui débutent, des débutants. Alors on leur dit, là, je comprends, mais il est très au-dessus de diriger un acteur, Marcel Carnet. Il prend justement une affiche pour ne pas avoir à dire, tu dis ta réplique comme ça, c'est pas possible.
Vous savez, quand j'ai demandé à Arletty, elle avait fait très très peu de choses au cinéma, elle avait fait des silhouettes, elle jouait surtout au théâtre Les Revues de Rip, connaissait assez peu le cinéma, et j'ai voulu tourner ce qu'on appelle au cinéma filer une scène, c'est-à-dire prendre une séquence, de A jusqu'à Z, faire tourner tous les déplacements d'acteurs, les mouvements, l'utilisation des accessoires et tout. Bon, j'ai dit, allez, moteur, claquette, numéro, etc. Bon, partez. J'avais expliqué à Arletty, elle dit, oui, ça va, bien. Et rien ne marchait, les gestes ne collaient pas sur les phrases, enfin, elle ne s'en sortait pas. Elle tourne une fois, deux fois, trois fois, elle ne s'en sortait pas. J'étais très catastrophé, parce que j'ai besoin de vous dire, dans l'Hôtel du Nord, je comptais beaucoup sur elle. Et tout d'un coup, impatienté, je dis, mettez-vous là, je vais vous montrer. Moi, je suis très mauvais acteur, je dis, mais je vais vous montrer. J'ai joué la scène, en plaçant les mots, en plaçant les phrases, faisant les gestes et tout. Allez, suffit Marcel, j'ai compris. Et c'est parti comme ça, et ça a été merveilleux.
Quel désastre! Écoutez-les, mon public! Mon cher public!
Quoi? Rembourser? Rembourser? Jamais! J'aimerais bien n'importe quoi!
Ou n'importe qui! Ça tombe bien, justement n'importe qui, le voilà. Laissez-moi seulement entrer dans la peau de mon personnage et vous allez voir ce dont je suis capable.
Mais enfin, jeune homme, je ne sais pas qui j'ai affaire! Où avez-vous joué si vous avez déjà joué quelque part? Et qu'est-ce que vous avez joué?
Des lions, toujours des lions. Je connais à fond le répertoire des lions. Le golfe du lion, la constellation du lion, Richard Cœur de Lion, Pygmalion, j'ai tout joué.
Le lion, mais ça ne me plaisait pas beaucoup. Un lion, ça ne parle pas suffisamment. Ça rugit, je sais, mais ça ne me suffit pas.
Enfin, il avait Salou, il avait Brasseur, il avait Marcel Errant.
Marcel Errant, très bien. Vous savez, j'ai dirigé de grands hommes de théâtre, comme Jouvet, comme Barrault, comme Villard, comme Errant. Et j'ai rarement trouvé des pensionnaires plus souples. Ils oubliaient totalement qu'ils dirigeaient de grandes compagnies, merveilleusement, qu'ils avaient un grand nom. Et ils étaient vraiment malléables. Ils faisaient exactement tout ce qu'on demandait, presque trop, vous comprenez. Ils ne disaient jamais, vous ne croyez pas ou tu ne crois pas, si je faisais ça. Excessivement rarement.
Qu'est-ce que tu as, Baptiste?
Rien, pourquoi?
Si tu as quelque chose. Tu es beau. Tu le sais bien que tu es beau, puisque je t'aime. Mais aujourd'hui, tu es plus beau que tous les autres jours. Tu brilles. Qu'est-ce que c'est que cette fleur?
Une fleur?
Une fleur. C'est parce que tu vas jouer que tu as l'air si heureux.
Peut-être.
Moi aussi, je suis heureuse.
Oui, Maria Cazares, qui était jeune, qui débutait dans le cinéma, une actrice, jeune, mais déjà célèbre. Et tout ça, alors il avait vraiment des... Mais non, et justement, je trouve très bien que Marcel Carnet prenne des gens comme ça.
Bon, pour moi, d'abord, c'était le premier rapport avec le cinéma.
Maria Cazares.
Que je ne connaissais pas et qui n'avait pas de rapport avec ce qui était là, c'est-à-dire le théâtre. Et alors, les impressions que j'ai sont très subjectives, vous voyez, et épouvantées. Non pas de Marcel Carnet, qui a été formidable, mais du tout. Enfin, j'ai failli quitter, je voulais ne plus tourner. Enfin, c'était une catastrophe, mes rapports avec le cinéma. Malgré la présence de Carnet qui... On m'avait dit qu'il était très, 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 très dur comme ça avec les acteurs et qui, avec moi peut-être à cause de mon épouvante, a été d'une tendresse, d'une gentillesse et d'une compréhension qui dépassait la mesure même. Bon. Alors pour moi, il est resté comme ça, un personnage, comment vous dirais-je, un tout petit peu de science-fiction. Un tout petit peu comme on imagine, vous savez, les personnages, les extraterrestres, plein de rails autour, de mécaniques, de choses autour. Un petit personnage, puisqu'il est menu, carné. Et au milieu de tout un monde comme ça, construit au milieu de la technique, de la mécanique, et qui m'était révélée pour la première fois, quoi. Et là, au milieu de cela, les rapports directs où il a été, il a fait même des choses invraisemblables, parce que la première scène que j'ai dû tourner avec Carnet, je tremblais tellement, tout tremblait tellement, les joues, le nez, tout, que au bout de quelques temps, il m'a dit, mais ça va très bien. Il était très content, mais il m'a dit, mais il faudrait quand même que vous calmiez maintenant, c'est... Alors je transpirais, on mettait de la glace d'un côté, on me la mettait de l'autre, pendant qu'on me mettait l'autre côté transpirait, etc. Et alors à un moment il m'a dit, est-ce que ça vous gêne qu'il y ait des gens sur le plateau? J'étais affolée, j'ai dit oui, comment je pouvais dire non, enfin. Il a renvoyé tout le monde, et puis ça continuait, il m'a dit, est-ce que ça vous gêne encore quelqu'un? Je crois bien que je lui dis oui, vous. Et il a disparu, je ne sais pas s'il a disparu du plateau, mais il a disparu. C'est-à-dire que je tournais le premier plan que j'ai tourné, en fait avec la caméra. Ce que je trouve ça vraiment assez formidable, non?
Vous savez, dans tous mes films, dans presque tous mes films, j'ai pris des inconnus. Si vous prenez la série de films que j'ai fait, j'ai pris des inconnus. À part peut-être Drôle de drame, encore Drôle de drame, il y avait la petite Vogel. Jean-Pierre Aumont n'avait jamais joué un personnage comme il a joué, comme le personnage du laitier dans Drôle de drame. Si vous prenez après Quai des Brumes, il y avait Morgan qui avait fait très peu de choses. Donc, je n'ai pas... Presque toujours. Oui, bon, Hôtel du Nord, Arletty n'avait rien fait à l'écran. D'abord, jadis, il y avait beaucoup plus de très grands noms. Aujourd'hui, les très grands noms se résument à 4 ou 5. Et, enfin, j'ai des très grandes vedettes, je veux dire. Il y en a 4 ou 5, on pourrait les citer. Et jadis, il y en avait quand même beaucoup plus. D'une part. D'autre part, peut-être qu'elles ont aussi un registre plus restreint. Et, en troisième lieu... Elle tourne beaucoup plus que les vedettes jadis. Vous voyez, je ne cite pas les noms, mais vous voyez des acteurs, des très grands acteurs qui touchent 250, 300 ou 350 millions, qui font 4 films par an. Alors, pourquoi je viendrais en cinquième position faire un film avec eux? Vraiment, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça peut apporter aux gens? Qu'est-ce que ça peut apporter à l'acteur, oui. C'est tout ça est sans imprévu. Je sais que moi, je suis beaucoup plus... Ça m'exalte beaucoup plus d'essayer de tirer quelque chose d'un inconnu ou d'une inconnue que d'une vedette consacrée dont on connaît tout. Ou alors, il faudrait à ce moment-là prendre cette même vedette et lui faire jouer une chose tout à fait opposée à ce qu'elle a joué jusqu'alors. Ça peut se trouver, mais c'est évidemment assez rare. Et puis, peut-être, elle aura peur. À ce moment-là, cette vedette aura peur et n'acceptera pas.
Tentative d'assassinat avec préméditation. Complicité. Bon, ça peut aller chercher dans les 5 ou 6 ans de réclusion, tout bonnement. Alors, ce qu'on t'en dit, c'est pour ton vie. On est gentil, aimable. On met la nappe. Mets-toi à table, on t'en tiendra compte.
Cassez-moi, ne me touchez pas.
Des égards, peut-être.
Pourquoi pas, parce que je suis innocent.
Allez, ça va comme ça. Discutons. On l'emballe et causera là-bas.
On l'emballe. Et là, attention, hein. Fragile. Objet d'art. Du tact, hein, s'il vous plaît, de la délicatesse. Vous ne savez sans doute pas à qui vous avez affaire. Soyez donc assez aimable pour faire prévenir cette personne que je suis la victime d'une erreur judiciaire.
Avec Carnet, j'ai appris cette pensée fulgurante et subtile qui est une pensée par image.
Henri-François Rey.
Et la précision aussi. Je veux dire, celle du mathématicien du temps et de l'espace. J'ai appris à regarder vivre un homme qui a l'œil le plus prodigieux que j'ai jamais pu observer. Un œil panoramique. Un œil travelling. Un œil fouineur, fouisseur, percuteur, à qui rien, mais strictement rien, n'échappe.
C'est vrai, je suis assez exigeant sur le plateau. Non, mais je suis très exigeant, je suis exigeant pour moi-même. Si je demande un effort à un collaborateur, j'y participe. Je veux dire, par exemple, je demande à des électriciens et à un chef opérateur d'éclairer un décor un matin pour que le décor soit éclairé au moment du tournage. Ma présence n'est pas indispensable, mais je suis là le matin avec eux, vous comprenez ? C'est pas un effort considérable, mais j'estime que je dois le faire.
Et puis il a eu tout ce qu'il a demandé, tout ce qu'il a voulu, par sa volonté, par sa ténacité. Oh, il est tenace.
J'exige vraiment le maximum des gens. J'exige le maximum. Dieu merci, quoique pas tout jeune, je ne ressens pas une fatigue physique rapidement. Je suis très résistant. Et je me soucie peut-être pas suffisamment de la fatigue des autres ou de leur capacité de résistance au travail.
L'acteur devant un grand monument de cinéma comme ça, il s'éclipse un peu, hein. Il fait son boulot et puis c'est tout. Il n'y a pas de caractère d'acteur là-dedans. Aucun ne faisait de comédie et de scène.
Une fois, j'ai assisté à une colère et il n'était pas avec deux personnes là. Et je suis partie très vite parce que. Mais. Et puis moi, une fois, il a été en colère avec moi. Très, très en colère. Il ne m'a pas parlé de deux jours.
Et il était écorché, comme nous tous. Hein. Et alors, il était nerveux, bien sûr. Mais une fois qu'on avait bien compris le tempérament de Carnet, vous savez, ce n'est pas terrible à supporter. S'il est beaucoup plus terrible de supporter quelqu'un de calme qui, tout d'un coup, se met dans une colère terrible, on lui dit, mais qu'est-ce qui lui prend ? Tandis que c'était le climat normal de Carnet d'être sur des charbons ardents, d'être en état de nerfs, de crier, de s'agiter, parce que c'est son rythme, son moteur tourne à ce régime-là.
Marcel Carnet est un cinéaste très obstiné.
François Truffaut.
Très soigneux, qui obtient généralement ce qu'il veut obtenir, même si cela n'a aucun intérêt. C'est un homme qui met en valeur ce qu'il doit filmer. Si ce qu'il doit filmer est intelligent, il met en valeur cette intelligence. Si c'est idiot, il met en valeur l'idiotie. Le problème demeure pour Marcel Carnet de trouver des sujets qui lui conviennent et qui ne soient point trop démodés.
En général,
Jacques Prévert.
J'étais toujours très souvent pendant le tournage. Pour des raisons d'ailleurs très simples. D'abord parce que ça me plaisait. Et que c'était marrant, vous comprenez. Moi, j'aimais beaucoup l'atmosphère de plateau.
Écoutez, la seule différence avec Carnet, qu'on avait l'habitude jusqu'au...
Tronner, décorateur.
Jusqu'à la porte de la nuit. Avoir une collaboration un peu plus serrée, c'est-à-dire la grande différence, c'était... qu'on travaillait à partir de décisions qui étaient prises Pour choisir un sujet, on travaille là-dessus en collaboration. Dans la plupart des cas, on vous amène un scénario, on vous engage et on vous dit, écoutez, maintenant vous allez dessiner les décors. La différence c'était ça, que c'est une chose organique qui se développait organiquement. On connaissait nos limites, qui étaient déjà très importantes. Le travail faisait assez vite. Autant que je me rappelle, Drôle de drame était tourné en 28 jours.
23 exactement.
23 jours.
23 jours. Vous savez, on tournait beaucoup plus vite. Et puis les scénarios étaient beaucoup moins détaillés qu'aujourd'hui, découpés. Les films étaient beaucoup moins découpés. Par exemple, moi je me souviens que à peu près le nombre de plans de Drôle de drame ne devait pas excéder 250 plans. Le film ne devait pas excéder 250 plans. Or aujourd'hui, j'ai 750 numéros dans mon dernier scénario.
C'est mieux qu'aujourd'hui. Les machinistes, les électriciens, on aurait dit qu'ils collaboraient en même temps au film. On avait le temps, un autre temps, même si on allait plus vite.
Moi, je travaillais avec Prévert, généralement, comprenez. Et ce qu'on appelle découpage, le film était très détaillé. Après, il venait simplement de ce qu'on appelle le découpage technique que Carnet faisait, où il mettait une ligne, il mettait deux numéros, il mettait ça plus près, plus loin. Il a dénominé professionnellement les...
Il ne faut pas oublier que l'opérateur n'était pas mal non plus, Monsieur Hubert. Roger Hubert. C'est sensationnel, ces photos qu'il avait faites par lui, je trouve. C'est formidable.
Vraiment, monsieur, vous avez joué ce rôle de brute borné et sanguinaire avec un tel naturel.
Trop aimable, monsieur. Mais je pense surtout l'avoir joué comme Shakespeare l'a écrit. Le plus naturellement du monde.
Un bien singulier personnage, ce monsieur Shakespeare. Je me suis laissé dire qu'il avait débuté dans les lettres en découpant de la viande sur l'étal d'un boucher.
Et pourquoi pas?
Ce qui expliquerait le caractère bestial et forcené de son théâtre. Et pourquoi il obtint de son vivant tant de succès auprès des débardeurs, des chartiers
et les rois?
Oh, mais alors je comprends pourquoi cette pièce me déplaisait, me choquait. Demain soir, je prendrai une place pour mon cocher. C'est une expérience à tenter.
J'espère que vous me laisserez le plaisir de vous offrir une avant-scène pour vos chevaux.
C'est une expérience à tenter.
Et moi qui croyais que vous ne vouliez plus me revoir.
Et moi qui craignais de vous avoir perdu pour toujours.
Jamais je ne vous ai oublié. Et même dans mes rêves, toujours vous étiez là. Vous m'avez empêché de vieillir, de devenir bête, de m'abîmer. Je trouvais ma vie tellement vide. Et je me sentais si seule. Et je me disais, tu n'as pas le droit d'être triste. Tu es tout de même heureuse puisque quelqu'un t'a aimée.
Si malheureusement un film n'est pas bien préparé par manque de moyens, par manque de temps, comme ça a été un peu là... les raisons du manque de préparation de La Merveilleuse Visite, il y a toujours quelque chose qui accroche. Il est très difficile de rattraper en cours de tournage une mauvaise préparation. Il y aura toujours quelque chose qui sera là, qui contrariera, qui occasionnera du retard.
La seule différence qui existe aujourd'hui, que la sensibilité de la pellicule est plus grande, que les objectifs sont plus ouverts. Vous comprenez, ça, vous pouvez tourner dans les endroits où on ne pouvait pas tourner avant. Ça veut dire qu'on pouvait construire des choses. Mais aujourd'hui, imaginons-nous qu'on fera Les Enfants du Paradis et on tournera dans le décor réel, qui sera la seule différence. On ne trouvera même pas les décors réels correspondants. Mais par contre, certaines catégories de films qui sont plus près d'une chose quotidienne d'aujourd'hui, aujourd'hui, on peut l'exécuter qu'on ne pouvait pas faire il y a 40 ans. Il y a 40 ans, on montait davantage. Ça veut dire, il y avait un travail de studio plus important qu'aujourd'hui, mais qui était un travail de reproduction, si on peut dire. C'est-à-dire, on imitait une pièce. C'était une chose, c'était pas la qualité d'un film. La qualité d'un film, à cette époque, c'était trouver un style qui était par rapport au décor, à l'ensemble. Il y avait un style photographique, il y avait une continuité. C'était pas une mosaïque. Mais aujourd'hui, le travail d'un cinéaste d'aujourd'hui, qu'on appelle, je sais pas, qui travaille en décor réel, ils font plutôt un travail de mosaïque qui est adapté à ça et se former de toute façon. Par contre, il y a une autre forme de cinéma, on part de zéro. ça n'exclut pas la réalité. Vous pouvez englober la réalité. Exemple, dans Quai des Brumes, on a tourné quand même dans les extérieurs, mais qui s'adaptait très bien au style du film, ça veut dire qui était englobé dans le dessin, le Havre et les constructions qu'on faisait dans la réalité au bord de la mer, continuer exactement ce qu'on faisait dans le studio.
Ça me paraît, avec la distance, ça me paraît assez classique.
Jean-Louis Barrault.
On répétait toute la scène pour voir exactement comment on allait évoluer. Et puis, le découpage se faisait bien sûr par carnet. On repérait bien nos différents plans. Et puis, on tournait d'une façon assez simple, c'est-à-dire un coup sur elle, un coup sur moi, un coup en plan américain, puis un coup en plan général. C'était quatre visions assez classiques de découpage. Seulement, tout l'art était dans le montage, bien sûr.
Ah, vous, je dirige tout le montage. Ça, c'est... Ce qui n'empêche pas, j'ai un monteur, j'ai un bon monteur, je recherche de bons collaborateurs. Je suis ouvert à toutes les suggestions. J'ai une manière très, très perso de travailler. Je suis ouvert à toutes les suggestions. On peut me dire tout ce qu'on veut. Je réfléchis. Je dis oui ou non. Je considère que si j'ai dit non, c'est non. C'est pas peine de revenir. Mais peut-être que 5 minutes après, je reviendrai moi parce que je continuerai à réfléchir. Je n'ai pas d'amour propre pour ça. Mais si vraiment je dis non, que je réfléchis, c'est que la suggestion me semble mauvaise. Je veux que ce soit moi qui ai le dernier mot. C'est peut-être beaucoup de prétention, mais j'estime que je suis, par la force des choses, je suis à la tête de ce film. Je suis peut-être le seul à le voir vraiment, d'une manière bonne ou mauvaise, mais à le voir vraiment tel que je le veux. Et c'est moi qui dois finalement avoir gain de cause.
Peut-on savoir, mon ami, comment vous exercez actuellement vos talents ?
Puisque cela vous intéresse, je termine, enfin je mets la dernière main, à une chose tout à fait passionnante et qui fera du bruit.
Une tragédie, sans doute.
Non, un vaudeville, une farce ou une tragédie. Pourquoi pas, si vous préférez. C'est pareil, tout cela. Aucune différence. Ou si peu de différence. Par exemple, quand un roi est trompé, c'est une vie, un drame de la fidélité. Ce n'est pas sa femme qu'il trompe.
Non, c'est la fatalité.
Oui, la fatalité. Mais s'il s'agit d'un pauvre diable comme vous ou moi, monsieur de Montret, et quand je dis moi, c'est une façon de parler, alors ce n'est plus une tragédie. C'est une bouffonnerie. Une lamentable histoire de cornard.
C'est pourtant le même bois sous le chapeau du pauvre, sous la couronne du roi. Le bois mort de l'amour qui pourrit sur la tête de ceux qui ne sont pas aimés.
Toujours le même bois, les mêmes histoires, les mêmes larmes. Alors dans le fond, messieurs, peu importe le genre de ma pièce, l'essentiel est qu'elle soit amusante et que l'auteur soit le premier à en rire.
Si on la joue,
rassurez-vous, messieurs, elle sera jouée. Elle se joue déjà, dirais-je même. Mais si vous voulez des rôles...
Très drôle.
Oui, elle est très drôle. Mais je vous préviens qu'il y a des meurtres. Et je vous assure qu'une fois le rideau tombé, aucun de ceux qui seront morts ne se relèvera pour saluer.
Décidément, ce personnage est ennuyeux au possible. Si on le jetait dehors...
Silencieux ! Je vous assure, monsieur, que vous auriez tort d'essayer de m'humilier. D'ailleurs, vous ne le pourriez pas. Je ne suis pas un personnage de votre ville, moi. Tandis que vous, vous en êtes un. Et je le prouve.
Un scénario, c'était déjà relié, vous savez, c'était déjà fait. Vraiment, il n'y avait plus qu'à le lire, vous voyez. Et à naturellement trouver un carnet pour diriger tout ça. Mais il n'y a pas assez de précis. On n'a pas à dire qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui, on le sait.
Les acteurs dans le cinéma sont des gens bien plus importants qu'on croit. C'est le moins important. Avec Gisté, c'est un mot qui ne m'intéresse pas, l'importance. Mais enfin, plus stupéfiant, plus agréable... On vous parle toujours de création, ils participent. Qu'est-ce que c'est que la création ? Qu'est-ce que c'est que les auteurs, les créateurs, ceci et ce, ça ?
Dans un film comme Les Enfants du Paradis, tout le monde connaissait sans un changement de réplique, de A à Z. C'est formidable, voilà aussi la force d'un film comme ça. Hein ? C'est pas on va demander à l'auteur, non, l'auteur l'a fait, il a écrit ça, puis c'est comme ça.
Si bien l'opérateur... qu'un figurant qui soudain apparaît. Tout ça, ça existe et ça fait. Ça fait ce qu'on appelle le cinéma.
Ils avaient choisi, tous les deux, Prévert et Carnet, ils avaient choisi cette distribution dans les moindres rôles. Je crois que même les machinistes étaient de première classe. Catégorie A. Et de A à Z. Machiniste, habilleuse, tout formidable. Ça, c'est aussi un peu Carnet, là, qui choisit tous ces machins-là, hein.
J'ai une affection, j'ai l'amour, ma pauvre Letty. Ouais. Et en même temps, j'écrivais pour elle. Hein. Il y a une chose drôle. Jolie. Dans le film, je sais pas, elle dit j'aimais beaucoup ma mère. Il se trouve que elle le disait si bien que je lui dis c'est sans doute parce que moi, quand j'ai écrit ça, j'aimais beaucoup ma mère. Oui. Je dis c'est plus difficile à dire j'aimais beaucoup ma mère qu'un mot d'esprit.
La plus grande, disons, femme de cinéma comme Greta Garbo n'a pas eu un rôle pareil. Ça, c'est vraiment... J'ai eu cette chance-là que Prévert écrive une chose comme ça.
Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle, et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi.
C'est drôle, on dirait que vous avez couru.
Oui, après vous.
Après moi? Et vous venez à ma rencontre?
Mais justement... Je vous ai vu tout à l'heure. Alors vous comprenez, le choc, l'émotion, le temps de me décider. Et vous étiez déjà loin. Alors?
Alors?
Alors comme j'ai horreur de suivre une femme, j'ai couru pour vous dépasser et précisément venir à votre rencontre. Et maintenant je ne vous quitte plus. Où allons-nous?
C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien.
Mais c'est peut-être le même.
Non.
Oh, pourquoi?
Parce que j'ai rendez-vous.
Au rendez-vous?
Carnet n'est pas réaliste.
Que nous vivons ensemble et
vous le savez bien. Oh, mais transfigure la réalité dans son style.
Et vous l'aimez, hein, c'est tout.
Ce qui est intéressant, c'est le style de Carnet et pas la réalité qu'il représente.
Il l'est, hein, jaloux.
Est-ce que vous
Orson
en
Welles.
Oh, ils le sont tous, sauf moi. Mais n'en parlons plus. Nous pensons plutôt à nous qui avons tant de choses à nous dire.
Vraiment?
Oui, vraiment. D'abord, je vous dirai mon nom. Je m'appelle Frédéric. Vous me direz le vôtre?
On m'appelle Garance.
Garance, oh, c'est joli.
C'est le nom d'une fleur.
D'une fleur rouge, comme vos lèvres. Alors?
Alors, au revoir, Frédéric.
Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Me laissez tout seul sur le boulevard du crime. Dites-moi au moins quand je vous reverrai.
Bientôt, peut-être. Sait-on jamais avec le hasard?
Oh, Paris est grand, vous savez.
Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Les Enfants du Paradis, le chef-d'œuvre de Marcel Carnet, le chef-d'œuvre de Jacques Prévert.
Georges Chadoul.
Ils sont l'un et l'autre en pleine possession de leurs moyens. Ils ont pu faire un film qui dure plus de 3 heures et peindre ainsi les caractères et les situations avec une complexité généralement réservée aux seuls romanciers. Ils ont ainsi pu se réaliser pleinement et peut-être ne dépasseront-ils jamais ce point de perfection. Tout l'art de Carnet est dans la mesure et l'équilibre. Sa technique est si parfaite qu'on l'oublie.
Ah, écoutez, je vais vous dire, moi je ne lis plus la critique. Le jour où sort un film, pendant un mois, il n'y a plus d'autres journaux chez moi.
Ouais.
Non, c'est vrai, parce que j'ai plus... Il faut vraiment qu'un copain me dise... bon, s'il me dit, il y a un tel terrain, ben, je ne le lis pas. S'il me dit, sûr, il y a un très bon papier dans tel journal. Alors là, j'ai la fière, enfin, une espèce d'orgueil mal placé d'acheter le journal. Mais non, j'ai fait quand même très peu attention, parce que je trouve que les critiques sont toujours exagérées. Je trouve qu'ils ont exagéré sur mes films d'avant-guerre et exagéré... sur l'indignité de ceux d'après-guerre, vous comprenez? Enfin, dans l'ensemble, c'est pas vrai. J'ai fait des films après-guerre qui valent l'Hôtel du Nord, vous comprenez? Enfin, à mon avis, mais j'ai le droit d'avoir mon avis. J'estime que j'ai pas fait que des bons films après-guerre, mais j'en ai fait 3-4 qui, à mon avis, étaient pas mal.
Bah, je connais un peu Marcel Carnet après avoir vu Les Visiteurs du Soir, et puis je tenais à voir d'autres films de lui, voir Les Potes également.
Moi, je le vois pour la troisième fois, je le trouve toujours très actuel. Le film en lui-même, j'adore les dialogues de Prévert et je trouve qu'il est toujours actuel. Qu'il n'est pas du tout dépassé, que ce n'est pas un film qui est démodé. Et je suis toujours très heureuse de le revoir.
Si je lui dis que je l'aime, que je n'aime que lui.
Tu sais pas mentir, il ne te croira pas.
Il ne tient pas tellement à ce que cela soit vrai. Je le connais. Ce qu'il désire surtout, c'est que je le lui dise. Dans le fond, peu lui importe que je l'aime. Pourvu que je n'aime personne d'autre.
Notre déception est d'autant plus vive. Il aurait fallu peu de choses, peut-être, mais à leur imposer dès l'origine pour que les enfants du paradis fussent la Bible du cinéma contemporain, ou tout au moins l'Apocalypse selon saint Marcel Carné. Les photographies de Roger Hubert, le texte de Jacques Prévert, le jeu de Mademoiselle Arletty, de Jean-Louis Barrault, et surtout de Pierre Brasseur, qui est sans hésitation possible le premier acteur de sa génération, conjugué par la poésie désinvolte et précise de Marcel Carné, il y avait de quoi enjalouser tous les pays du monde et toutes les histoires de l'art. Hélas, nous n'avons eu qu'un Vautrin revu par Paul Féval, avec une interminable tranche de Mystère de Paris, une succession de brillantes velléités. François Chalet.
Il y a M. Chalet, pour ne pas le nommer, qui a raté l'Enfant du Paradis. Vous savez que le Quai des Brumes, il y a une certaine presse dithyrambique, et extrême droite et extrême gauche ont éreinté le film, mais de l'esprit du film, mais d'une manière effroyable.
Les Enfants du Paradis ?
Oui.
Me plaît énormément ce film. Il est d'une grande sincérité, il est très poétique, extrêmement poétique. Et c'est un film qui réussit à nous émouvoir beaucoup.
C'est la première fois que vous voyez ce film ?
Ah oui, bien sûr, la première fois.
Comme c'est beau la lumière de la lune. Regardez, Baptiste. Elle brille pour nous comme le premier soir. Et comme le premier soir, la fenêtre est grande ouverte. C'est merveilleux. Tout est pareil. Rien n'a changé. Toujours la table à la même place. Voilà le lit où je dormais.
Vous non plus, Garance. Vous n'avez pas changé. Dans votre voix, toujours la même douceur. Toujours la même lumière dans vos yeux.
Une petite lueur.
Ah non, mais on a une tendresse. On a une tendresse qui existe, une tendresse qui est amicale, qui est professionnelle, ça ne s'arrête pas le moment donné quand on ferme la porte du studio et quand on dit au revoir. Il y a une résonance qui existe dans la vie humaine qu'on n'a pas arrivé à couper encore. Mais tous les gens avec qui on a travaillé, qui étaient Brière Brasseur, que ce soit Jules Berry, que ce soit Michel Morgan, tous ces gens avaient une grande tendresse.
Les films de Carné, il faudrait faire des films de ces films, avec les retombées. Alors là, on aurait un chef-d'œuvre aussi. Si on prenait probablement Quai des Brumes, Drôle de Drame, enfin, Hôtel du Nord, Le Jour se lève et tous les films, et des retombées de rigolade, parce que tout ça se bosse dans une rigolade malgré tout avec lui. Il a de l'esprit. Eh bien, je vous assure qu'on rirait. Sûrement.
Carnaval, avril, la vie est belle.
D'abord, à la présentation, je l'ai vu à travers mes doigts, parce que j'avais tellement de trac que j'avais les doigts devant les yeux. Et puis ensuite, je l'ai revu, mais longtemps après, et j'ai pu l'apprécier parce que ce n'était plus tout à fait moi. Et puis alors, je l'ai revu il y a quelques années, alors là, j'ai pu l'apprécier complètement parce que je vois mon fils. Et je pense il, je ne pense pas je. Quand je vois Baptiste, ben je dis tiens, il fait ça, tiens, il aurait dû faire ça, tiens, et non, ça c'est pas mal ce qu'il fait, etc. Donc je suis complètement, serein par rapport au personnage. C'est pour ça que je peux apprécier le film et pour ça que je dis qu'il n'est pas démodé, que je trouve que c'est un des meilleurs films qu'on ait fait en France. Mais en même temps, si j'avais à choisir parmi tous les personnages que j'ai interprétés dans ma vie, de théâtral au cinéma photographique, je dirais avec les personnages de Joseph K. dans Le procès de Kafka, ou bien Hamlet, ou bien peut-être deux ou trois rôles de Claudel, et c'est Baptiste qui est mon frère.
Pour la presque unanimité de mes films, j'ai été dès le début, j'ai choisi le scénario, j'ai choisi mes collaborateurs littéraires, toujours, c'est toujours moi qui l'ai fait. J'ai travaillé avec eux depuis le premier jour.
On se rencontrait souvent, on parlait, on échangeait des idées.
Puis, naturellement, j'ai préparé, réalisé, monté, mixé, terminé le film. Donc, je trouve que tout de même, je ne dis pas que le réalisateur est le seul auteur, je suis trop stupide, mais je crois que c'est quand même, qu'on le veuille ou non, le principal auteur, sauf des cas très rares, vous comprenez, des cas très rares où vraiment le dialogue est tout.
Quand on disait, voilà, on veut faire quelque chose, comprenez, on refusait tout le reste parce que la vie n'était pas dure, dans le sens comme aujourd'hui, on a toujours pu avoir quelqu'un qui paye un café crème.
Peu importe que les films de Pagnol soient très bien faits, pas bien, qu'est-ce qui compte, c'est le texte, vous comprenez. Alors là, évidemment, Pagnol est et l'auteur, mais sont quand même des exemples rarissimes. Mais même, je ne sais pas, je vais peut-être dire une chose qui va vous faire bondir, vous tourneriez Britannicus demain, de Racine, si vous arrivez à insuffler un style proprement, un souffle proprement cinématographique à Britannicus, je ne sais pas si tout de même vous ne seriez pas co-auteur avec Racine, vous comprenez. C'est très délicat, mais comme je n'ai pas visé si haut, je crois quand même pouvoir dire que je suis le principal auteur de mes films, bon ou mauvais.
Troner, décorateur.
On a débuté ensemble.
Jacques Prévert.
Petit l'œil vif.
Maria Cazares.
Brasseur, c'est là où je l'ai connu.
Pierre Brasseur.
Il faut commencer, il faut tout recommencer.
Arletty. Jean-Louis Barrault.
Mais vous savez, nous étions tous une bande de copains.
Clap sur Marcel Carnet.
Non, j'étais chef de bande au square des Batignolles. Et puis j'avais le chef de bande rival qui était Brasseur. Un Brasseur comme ça, et comme il avait des patins hauts comme ça, patins hauts. Alors il me dominait. Non, enfin c'était le chef de bande.
Claire Viret.
Je ne détroussais pas les passants. Non, quoi, comme tous, on tous les gosses, on n'entre pas tout là-dedans.
Pierre Girard, Richard, Rhin.
J'avais déjà une marotte, c'était... Je me souviens, enfin c'est un peu ridicule, c'est enfantin, je veux dire. Par exemple, quand j'étais tout gosse, je demandais un guignol.
Nelly Laya, Robert Gachassin.
Guitare ou lanterne magique. Alors
Janine Chollet.
Je me mettais dans ma chambre, je tirais les rideaux, où je mettais des draps devant, et puis je convoquais les petits copains, et puis je fermais la porte à clé pour qu'ils restent là pour voir lanterne magique. Je ne laissais pas sortir avant qu'ils aient vu pour qu'ils aient vu. Donc vous voyez. Tout gosse comme ça, il y avait quelque chose. Comme bien chez les enfants, vous savez. Si mes amis ont des enfants bas âge, on voit tout de suite.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 avril 1974. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.